Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, la déchristianisation avance à grands pas, et elle va progresser à un niveau que les chrétiens ne soupçonnent pas. Bien sûr, en 1846, lors du message de la Sainte Vierge, on voit que le peuple abandonne Dieu, on voit que beaucoup de gouvernants abandonnent Dieu, on voit les révolutions, mais on n'imagine pas à l'époque arriver au niveau de sacrilège, de blasphème que nous connaissons aujourd'hui. Surtout, la hiérarchie de l'Église commence à se rendre complice des ennemis de l'Église, complice de la révolution. Cela se voit si on veut bien ouvrir les yeux avec l'esprit de foi, mais cela va se voir beaucoup plus avec le progrès des attaques de la révolution qui va pénétrer dans l'Église, et je vous l'ai dit, la hiérarchie va être de plus en plus complice. La Sainte Vierge ne veut pas laisser son peuple désemparé, et puisque la hiérarchie de l'Église trahit sa mission, la Sainte Vierge intervient pour que les chrétiens continuent à connaître la vérité, continuent à pouvoir servir Dieu et sachent ne pas être entraînés dans la trahison de la hiérarchie et du clergé. Le message de la Très Sainte Vierge au berger de la Salette est en quatre parties. La première fut révélée le soir même des apparitions. Elle concerne tous les chrétiens. La Sainte Vierge leur reproche de ne pas respecter le dimanche, de travailler servilement le dimanche, de ne pas aller à la messe. Elle leur reproche leur blasphème, leur juron. Elle leur reproche le mépris des commandements de Dieu. Si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcé de laisser aller la main de mon Fils. Elle est si lourde et si pesante que je ne puis plus la retenir. Ce message est le plus connu. Il a été diffusé sans difficulté, mais la hiérarchie de l'Église a tout fait pour en atténuer la portée. Mais il y a plus grave que cela. Il y a ensuite un secret qui est révélé à Mélanie Calva, secret qu'elle doit révéler un peu plus tard, à partir de 1858, qui est très bien connu parce que Mélanie en a fait plusieurs rédactions et qui va être l'objet de haine féroce de la part des libéraux, pas seulement des ennemis de l'Église, mais des libéraux dont la Sainte Vierge met au grand jour leur trahison. Le même secret a été donné séparément à Maximin Giraud. Le contenu en est identique à celui de Mélanie Calva, en deux termes différents. Le texte en avait été perdu, mais il a été retrouvé récemment dans les archives du Vatican. Enfin, la Sainte Vierge, toujours dans le secret, révèle à Mélanie Calva la règle d'un nouvel ordre religieux comme remède aux maux qu'elle dénonce. Dans le secret, il y a d'abord un contenu politique, la dénonciation de Napoléon III. Son cœur est double, dit la Très Sainte Vierge. Cette dénonciation politique est très importante, je vous l'ai déjà dit, parce que l'influence des dirigeants et de la politique sur la conduite du peuple chrétien, cette influence est très importante. Or, à l'époque, le peuple chrétien suit de plus en plus des gouvernants hostiles à l'Église, suit sans réagir, et lorsqu'on a un Napoléon III, on a même beaucoup de catholiques qui ferment les yeux sur la trahison de Napoléon III, qui savent très bien que son cœur est double mais ne veulent pas l'admettre, et qui se persuadent qu'on a affaire à quelqu'un qui est relativement favorable à l'Église. Bref, c'est du libéralisme, et c'est la première fois que la Très Sainte Vierge dénonce ce libéralisme, sans donner le nom, mais en décrivant la chose, son cœur est double. Et les chrétiens qui suivent Napoléon III, nécessairement, leur cœur est double à eux aussi. Le secret contient surtout une dénonciation de la situation de l'Église avec le déroulement de l'histoire de l'Église jusqu'à la fin du monde. On y trouve tout d'abord la dénonciation de l'infidélité des prêtres et des personnes consacrées à Dieu, infidélité morale, mais également infidélité à la foi. La Sainte Vierge parle d'une crise affreuse dans l'Église, d'un relâchement universel pour tous ceux qui regardent le service de Dieu. Étant donné que la hiérarchie, les papes pas encore, cela viendra plus tard, mais la hiérarchie déjà à cette époque, abuse de leur autorité pour mener le peuple chrétien, tout d'abord dans les compromis, le cœur double dont la Sainte Vierge vient de parler, puis après cela de véritables trahisons, la Sainte Vierge dénonce donc la hiérarchie et son comportement. Les chefs, les conducteurs du peuple de Dieu, ont négligé la prière et la pénitence, et le démon a obscurci leur intelligence. Ils sont devenus ces étoiles errantes que le vieux diable traînera avec sa queue pour les faire périr. Cela regarde aussi bien les chefs et conducteurs du peuple laïque, les politiques, que les chefs et conducteurs ecclésiastiques. La Sainte Vierge est encore plus précise, Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Ce sera le temps des ténèbres, l'Église aura une crise affreuse, l'Église sera éclipsée, le monde sera dans la consternation. Ce message sera, dès le début, l'objet d'une violente contestation, enfin dès qu'il est publié en 1860. Déjà, l'apparition elle-même était l'objet de contestation, et ceux qui contestaient flairaient bien que la Sainte Vierge entamait contre eux une lutte, ou plutôt encourageait les fidèles dans cette lutte qui date depuis le péché originel du démon contre les chrétiens. Ceux qui contestaient l'apparition de la Sainte Vierge se rendaient bien compte qu'on arrivait à une phase nouvelle avec une lutte plus intense, pas nouvelle mais beaucoup plus intense et avec des effets dramatiques. Mais ils ignoraient encore ce secret, cette partie du message qui dénonce le comportement de la hiérarchie. Quand ce secret sera connu, alors ce sera une levée de boucliers contre le secret, avec toutes sortes de calomnies, et surtout d'embrouillaminies. Le démon est malin, les complices du démon sont malins comme lui, parce qu'ils l'imitent, et au lieu de proclamer une simple négation qui serait relativement claire, vous auriez oui d'un côté et non de l'autre. Ils vont publier des calomnies, de l'embrouille, ils vont attaquer la bergère pour discréditer le message. Ils vont porter leurs efforts à Rome. Rome ne se laissera pas influencer, mais ils trouveront le moyen de faire croire, plus tard, au XXe siècle, que Rome a elle-même condamné le secret, ce qui n'est pas vrai. Mais du coup, ils sèment le doute. Il est très facile de prouver que toutes ces attaques contre le message de la Salette ne tiennent pas debout. Du coup, si les attaques ne tiennent pas debout, le message garde sa valeur. Et à la limite, s'il ne venait pas de la Sainte Vierge, comme c'est un message sérieux, cela vaudrait vraiment la peine qu'on l'écoute, qu'on en tienne compte, qu'on le mette en application, d'autant plus qu'il correspond à des réalités évidentes, il correspond au message de l'Apocalypse. Bref, si l'on arrive, et c'est très facile, à démontrer que les attaques ne tiennent pas debout, le message reprend toute sa clarté, sa luminosité et son évidence. Il n'y a plus besoin de le prouver parce qu'il porte en lui alors une évidence. De fait, le message de la Salette a été d'autant plus vigoureusement attaqué qu'il est incompréhensible par ceux qui adhèrent à la nouvelle conception de l'Église que je vous ai exposée, la conception moderne, qui donne au pape un pouvoir absolu, qui font de l'obéissance pratiquement la première vertu. Rappelez-vous, Paul VI à Mgr Lefebvre, lorsque celui-ci dénonce les hérésies et la crise de la foi, Paul VI n'a qu'une réponse, « Obéissez, Monseigneur, obéissez ». Mais il ne s'agit pas d'obéissance, il s'agit de la foi. L'obéissance, c'est par rapport à des commandements. Là, il s'agit de la foi, il s'agit de fidélité à la révélation divine transmise par Jésus-Christ et par l'Église. Il est d'autant plus facile de prouver que les attaques contre le message ne tiennent pas debout que les adversaires disent pourquoi ils sont opposés au message et ils révèlent que leurs préoccupations ne sont pas celles de la Sainte Vierge. Je vais vous donner un article récent de M. l'abbé Glaise. D'habitude, je ne donne pas de nom, mais cet homme a une certaine influence chez les traditionalistes, une certaine autorité, parce qu'il est professeur de théologie, et notamment de théologie de l'Église, au séminaire d'Écône. Et son article est très clair pour montrer où est son problème. Voici la conclusion de l'article. L'apparition de la Salette, avec tout le culte qu'elle implique, fait partie du patrimoine de la dévotion catholique. Il en va tout autrement du secret de Mélanie. Le secret de Mélanie de la Salette est regardé par certaines personnes comme ayant été modifié par l'imagination de la voyante. Une des raisons sur lesquelles on s'appuie est que le texte renferme des accusations très dures et sans aucun correctif sur les mœurs du clergé et des communautés de 1846 à 1865. Donc, vous voyez, le message est faux parce qu'il dénonce et il accuse très durement le clergé. Quant au point précis qui nous occupe, continue l'abbé Glaise, Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Le siège de Rome est saint et sacré. Il représente une institution divine, indéfectible comme telle. L'expression de la Salette ne peut manquer de paraître au moins téméraire, injurieuse, elle ouvre la voie à l'hérésie, elle suggère la négation du dogme de l'indéfectibilité de l'Église. Même si des événements que nous vivons sont ce qu'ils sont, il n'en reste pas moins vrai que les avertissements du ciel doivent rester indemnes d'équivoque et de malsonance pour pouvoir se présenter avec toutes les garanties d'authenticité. Le raisonnement de l'abbé Glaise est simple, il ne peut pas y avoir de crise profonde à la racine de l'Église. L'Église est indéfectible, donc il ne peut pas y avoir de crise. Le Saint-Siège est sacré, donc il ne peut pas défaillir ni devenir le siège de l'Antéchrist. Alors ce jugement mérite une mise au point. Reprenons. Le secret de Mélanie de la Salette est regardé par certaines personnes comme ayant été modifié par l'imagination de la voyante. Une des raisons sur lesquelles on s'appuie est que le texte renferme des accusations très dures et sans aucun correctif sur les mœurs du clergé et des communautés de 1846 à 1865. La réponse est très simple, cette affirmation n'est possible que si on identifie Église et hiérarchie. Par contre, si on identifie l'Église avec les amis de Jésus et les amis de la croix, il est tout à fait possible d'admettre que la hiérarchie, les conducteurs du peuple, trahissent les amis de la croix. Et l'Église ne cesse pas d'être l'Église, c'est-à-dire que les amis de la croix ne cessent pas d'être les amis de la croix, les amis de Jésus ne cessent pas d'être les amis de Jésus quand ils sont trahis. Par contre, évidemment, si l'Église c'est le pape, alors on ne peut évidemment pas accuser le pape et la hiérarchie de trahison. L'abbé Glaise dit « C'était l'époque de Pie IX, de Don Bosco, du Saint Curé d'Ars et de l'expansion de l'enseignement chrétien en France. » L'expansion de l'enseignement chrétien en France, non. Dans le monde, oui, par les missions. En France, non, c'était un recul. C'était l'époque de Pie IX, de Don Bosco, de Saint Curé d'Ars, ça oui. Effectivement, la Très Sainte Vierge enseigne dans son message à distinguer ceux qui suivent Jésus-Christ en portant la croix de ceux qui sont des cloaques d'impureté. La Sainte Vierge est loin d'accuser tout le clergé, elle accuse la partie du clergé qui est cloaque d'impureté et qui perd la foi. Et elle le fait justement pour que nous sachions qui suivre. La Très Sainte Vierge dit « Les enfants de la Sainte Église, les enfants de la foi, mes vrais imitateurs, grandiront dans l'amour de Dieu et dans les vertus qui me sont les plus chères. Heureuses les âmes humbles, conduites par le Saint-Esprit. Je combattrai avec elles jusqu'à ce qu'elles arrivent à la plénitude de l'âge. » La Très Sainte Vierge dit qui on doit suivre, et ceux qui dénoncent et qui accusent de fausseté le message de la Sainte Vierge mettent nécessairement le peuple chrétien à la remorque des traîtres. Notre-Dame poursuit « J'adresse un pressant appel à la terre. J'appelle les vrais disciples du Dieu vivant et régnant dans les cieux. J'appelle les vrais imitateurs du Christ fait homme, le seul et vrai sauveur des hommes. J'appelle mes enfants, mes vrais dévots, ceux qui se sont donnés à moi pour que je les conduise à mon divin Fils, ceux que je porte, pour ainsi dire, dans mes bras, ceux qui ont vécu de mon esprit. J'appelle les apôtres des derniers temps, les fidèles disciples de Jésus-Christ qui ont vécu dans un mépris du monde et d'eux-mêmes, dans la pauvreté et dans l'humilité, dans le mépris et dans le silence, dans l'oraison et dans la mortification, dans la chasteté et dans l'union avec Dieu, dans la souffrance et inconnue du monde. Il est temps qu'ils sortent, qu'ils viennent éclairer la terre. Allez, montrez-vous comme mes enfants chéris. Je suis avec vous et en vous, pourvu que votre foi soit la lumière qui vous éclaire dans ces jours de malheur. Que votre zèle vous rende comme des affamés pour la gloire et l'honneur de Jésus-Christ. Combattez, enfants de lumière, vous, petit nombre qui voyez clair, car voici le temps des temps, la fin des fins. Eh bien, ceux qui condamnent le message de la Salette rejettent nécessairement cet appel pressant, cet appel touchant de la Très Sainte Vierge à ses enfants fils de lumière. C'est grave. La Sainte Vierge nous encourage à sortir, à nous montrer, à éclairer la terre, et sous prétexte que le clergé ne peut pas être accusé, alors tout cela est tenu pour rien, rejeté et tombe dans le néant. Je reprends l'abbé Glaise. Le siège de Rome est saint et sacré, il représente une institution divine, indéfectible comme telle. L'expression de la Salette ne peut manquer de paraître au moins téméraire, injurieuse, et même ouvrant la voie à l'hérésie, elle suggère la négation du dogme de l'indéfectibilité de l'Église. C'est de l'enfantillage. Il ne faut pas prendre l'expression « Rome » au sens matériel. Voici le célèbre texte de Mgr Lefebvre, sa déclaration du 21 novembre 1974, qui est autrement plus claire en faisant les distinctions. Nous adhérons de tout cœur, de toute notre âme, à la Rome catholique, gardienne de la foi catholique et des traditions nécessaires au maintien de cette foi, à la Rome éternelle, maîtresse de sagesse et de vérité. Nous refusons par contre, et avons toujours refusé, de suivre la Rome de tendance néo-moderniste, néo-protestante, qui s'est manifestée clairement dans le Concile Vatican II et après le Concile, dans toutes les réformes qui en sont issues. Et ailleurs, Mgr Lefebvre dit que Rome est occupée par des ennemis. Eh bien, c'est cela que la Sainte Vierge dénonce. D'ailleurs, elle dit que l'Église sera éclipsée. Elle ne dit pas que l'Église sera éteinte. Lorsque la lune éclipse le soleil continue à briller. Il n'est pas éteint. Lorsque Rome est éclipsée, elle n'est pas éteinte, elle continue à briller. Seulement, les méchants cherchent à cacher sa lumière. Mais voilà, avec Monsieur l'abbé Glaise, on n'a plus le droit de dire cela, et même la Sainte Vierge n'a pas le droit de dénoncer l'éclipse de l'Église. Bien sûr que l'Église est indéfectible, c'est une évidence, mais qu'est-ce qui est indéfectible? C'est la société des vrais amis de Jésus et de Marie. C'est la société des vrais amis de la croix. Elle existera toujours, elle ne cessera jamais d'exister. Elle sera nourrie du Saint-Esprit, elle sera nourrie de la croix de Jésus, elle sera nourrie par les sacrements célébrés par le petit nombre de prêtres fidèles qui resteront. Peut-être pas si peu nombreux que cela d'ailleurs. Le message de Notre-Dame à la Salette ne nie pas l'indéfectibilité de l'Église, elle affirme qu'il peut y avoir des trahisons à l'intérieur de l'Église, et elle nie si peu l'indéfectibilité que, au contraire, elle appelle les bons fidèles, tous ceux qui sont fidèles à elle et à son Fils, elle les appelle à sortir, à se montrer, à être la lumière dans les jours de malheur. Enfin, M. l'abbé Glaise ose affirmer ceci. Dans le sermon des sacres du 30 juin 1988, Monseigneur Lefebvre cite cette prophétie de la Salette, mais il évite de mentionner l'expression que Mélanie attribue à la Sainte Vierge. Il se contente de dire « La Sainte Vierge a annoncé comme une éclipse à Rome, une éclipse dans la foi. » Eh bien moi, j'affirme qu'il faut être de mauvaise foi pour voir une différence de contenu entre l'expression de la Très Sainte Vierge « Rome perdra la foi, l'Église sera éclipsée » et l'affirmation de Mgr Lefebvre, la Sainte Vierge a annoncé comme une éclipse à Rome, une éclipse de la foi. Ces mauvais principes, cette mauvaise théologie de l'Église, qui sont la cause du rejet du message de la Sainte Vierge par l'abbé Glaise et tous ceux qui, comme lui, ont rejeté ce message, montrent que leur rejet n'est pas fondé. La mauvaise foi de l'abbé Glaise et celle de tous ceux qui rejettent le message qui est de la même mauvaise foi, montrent que leurs accusations ne sont pas à prendre au sérieux. Alors, faisons ce que dit la Sainte Vierge, profitons de ces mises en garde pour être la lumière du monde. Nous en reparlerons dans les sermons suivants. Notre-Dame de la Salette, priez pour nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.